Sunwa Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Adolescence, première relation sexuelle, grossesse, ménopause, la santé gynécologique est là pour prendre soin du corps des femmes, comprendre son fonctionnement et son évolution, appréhender ses changements, le protéger de risques potentiels de certaines maladies, trouver des réponses adaptées. Les gynécologues sont des interlocuteurs de premier plan pour donner aux femmes des éclairages lorsqu'une question se pose sur la contraception, l'apparition de certaines douleurs, en cas de doute après un rapport sexuel non protégé ou encore après un test de grossesse positif. Ces questions que l'on pose aux gynécologues sont essentielles pour la santé, apaiser des craintes, soulager, soigner des douleurs, prévenir des complications et se débarrasser des tabous et des fausses croyances qui menacent le bien-être du corps féminin et son épanouissement. Et un numéro, si vous avez des questions gynéco, 33 84 22 75 75, des messages que vous pouvez également poster sur la page Facebook de l'émission. Cycle menstruel, contraception, infection sexuellement transmissible avec nous pour répondre à toutes vos questions. Docteur Marie-Laure Brival, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef de service de gynécologie obstétrique, directrice médicale à la maternité des Lilas en région parisienne. Et vous avez signé, docteur Brival, mon guide gynéco pour les nuls publié aux éditions First. Tout à l'heure, on va rejoindre au Sénégal le docteur Abdoulaye Diop, gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest de Dakar au Sénégal. Et en fin d'émission, nous ferons le point sur la tournée de la caravane des aidants, un événement qui se déroule en France jusqu'au 27 juin. Nous serons en ligne avec Claudie Culac, présidente de la Compagnie des aidants.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Marie-Laure Brival, première question sur la consultation de gynécologie en cabinet, à l'hôpital, consultation qui reste redoutée par certaines femmes, on peut dire aussi par un certain nombre de jeunes filles, mais quelle que soit leur raison, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement pour lever certaines peurs, certaines croyances, tout simplement pour dédramatiser?
Je pense que la première chose que l'on doit savoir, c'est qu'une consultation gynécologique ne comporte pas systématiquement, et en tout cas pas la première fois, un examen gynécologique. Et on peut, la deuxième chose qui est importante, on peut demander au médecin, au consultant, de différer cet examen et d'expliquer les raisons de ces craintes, et le professionnel va expliquer les choses. Enfin, troisièmement, je dirais que la maîtrise du professionnel et la qualité de son examen, de son toucher, rassurera la plupart du temps après le premier examen.
Donc c'est une question à la fois de pratique et une question de communication essentielle.
Absolument, c'est une question de pratique et de communication, et c'est vrai que l'instrument redouté qui est le spéculum, s'il est correctement posé avec une certaine expérience et une certaine douceur, est gênant et ne fait pas mal.
Alors, en fonction des moyens, bien sûr, des régions du monde où on se trouve, pas toujours évident de pouvoir consulter un gynécologue. Vers qui les femmes peuvent-elles se tourner, justement, lorsqu'elles ont des questions à poser, docteur Brival?
Je crois que les plannings familiaux sont des lieux de réponse, des lieux de discussion, d'entretien avec des professionnels qui orienteront la plupart du temps vers un médecin.
Alors, justement, j'ai une question Facebook de Danielle qui est à Gabon, au Libreville. Elle le dit elle-même. Question banale, je la cite, je me permettrai pas sinon. Question banale peut-être, mais à quelle fréquence doit-on se rendre chez le gynéco? Combien de temps après un accouchement faut-il retourner chez le gynéco?
Alors là, gynéco. Hein. C'est une question importante parce que je l'élargirai, c'est-à-dire beaucoup de mères me demandent quand je dois amener ma fille consulter voir le gynécologue. Il n'y a pas, je crois qu'il faut rester sur le principe de base, jusqu'à 25 ans, il n'y a pas de raison d'aller systématiquement voir un gynécologue parce que on pose les choses ainsi. En revanche, à partir de 25 ans, un examen est nécessaire, puisque là démarreront les contrôles de frottis.
On est déjà là dans la prévention, dans le dépistage.
Tout à fait, on est déjà dans la prévention et le dépistage. Et en dehors de troubles, de plaintes particulières qui nécessitent une consultation, un rythme, après deux consultations à un an d'intervalle, un rythme tous les 3 ans est tout à fait suffisant.
Alors on va dans quelques instants prendre les premières auditrices en ligne. Justement, vous avez parlé de ce frottis, docteur Marie-Laure Brival. Ça nous amène à parler du papillomavirus. Avec en France, la question, c'est un sujet d'actualité, question de la vaccination contre ce virus, qui est responsable entre autres du cancer du col de l'utérus. Taux de couverture vaccinale en France, c'est l'un des plus bas d'Europe. Moins de 20% de la population cible. Comment elle explique et comment on travaille à changer les choses ?
Et je crois que là, c'est une vraie problématique pour toute la communauté médicale de trouver les moyens de faire admettre cette vaccination qui est capital, essentiel dans la prévention du cancer du col de l'utérus qui est directement lié à l'infection, à l'entrée du virus papillomavirus dans les cellules du col de l'utérus et qui au bout de plusieurs années va éventuellement provoquer le début d'un cancer du col. Or le frottis est un examen qui va dépister les prémices de ce cancer, mais le vaccin va agir en amont et empêcher l'entrée du virus dans la cellule, c'est le but d'une vaccination. Et malheureusement, en France, il y a une crainte généralisée concernant les vaccins de l'hépatite B notamment, qui a suscité beaucoup de polémiques. Et malheureusement, le vaccin anti-papillomavirus va subir cette mauvaise presse du vaccin en général en France. Et donc, nous, professionnels, nous sommes tous convaincu qu'il faut poursuivre l'information et rattraper ce taux anormalement bas, je dirais même scandaleusement bas, de la vaccination. Or, on a là un cancer tout à fait typique qu'on peut prévenir. Il y en a pas d'autres cancers qu'on peut prévenir grâce à un vaccin. C'est un cancer infectieux et il est difficile de combattre ces idées reçues sur les vaccins.
Alors on va tout de suite prendre en ligne les auditrices de l'émission Docteur Brival.
Priorité santé sur RFI.
Une première auditrice qui est en ligne du Cameroun de Douala, c'est Ludmila. Bonjour Ludmila.
Bonjour madame.
Le docteur Brival est à votre écoute, allez-y.
Ok, bonjour à toute l'équipe Priorité Santé. Je suis une jeune maman de 30 ans avec un enfant de 10 ans, un garçon. Mon souci est au niveau des règles douloureuses en fait. J'en souffre avant l'accouchement. J'en souffrais avant l'accouchement, autant pour moi. Et après l'accouchement, ça persiste encore. J'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'origine et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles précautions prendre.
Ce sont des douleurs qui reviennent systématiquement tous les mois ?
Oui, tous les mois.
Docteur Marie-Laure Brival, peut-être d'autres questions vous voulez poser à Ludmila sur sa situation ?
Pas nécessairement, puisqu'elle elle pose la question de règles douloureuses, c'est-à-dire que vous n'avez pas de douleur en dehors des règles, c'est ça ?
Non.
D'accord.
Non.
Donc ce sont juste les règles qui sont douloureuses. Bien sûr, dans cette situation, même si ce n'est pas caractéristique, il faut penser à une chose il s'agit de l'endométriose. Je ne suis pas persuadée dans votre situation, puisque ces douleurs sont limitées à la période des règles, qu'il s'agisse de ça. Mais il est nécessaire de l'éliminer, donc consulter pour voir les choses. Maintenant, ces douleurs pendant les règles sont liées à une substance qui est sécrétée pendant les règles pour évacuer les règles, justement, qui sont des prostaglandines qui vont provoquer des contractions. Et chez certaines femmes, ces contractions ressemblent de près ou de loin à des contractions d'accouchement qui sont liées aux prostaglandines et ont des règles douloureuses sans que ça sous-entende une problématique d'endométriose. Donc il y a deux choses à distinguer et il me semble important d'éliminer une endométriose. Et donc, certaines femmes sont constitutionnellement avec ces douleurs sans qu'il s'agisse d'endométriose et elles sont parfois insupportables durant les règles. Et une des thérapeutiques, c'est de traiter par quelque chose qui va contrer l'action des prostaglandines, c'est-à-dire des médicaments anti-prostaglandines comme les anti-inflammatoires, l'aspirine, l'ibuprofène et des antidouleurs. Et donc on a beaucoup moins mal. Et l'évolution de ces douleurs sont variables dans le temps. Effectivement, vous le précisiez par rapport à votre accouchement, certaines femmes vont voir disparaître ces douleurs sans qu'il y ait vraiment de lien de cause à effet démontré avec l'accouchement, mais ça arrive. Et puis d'autres, comme vous, vont continuer à avoir ces douleurs et il faut continuer à prendre des antidouleurs. Sinon, si on fait un diagnostic d'endométriose, il faut traiter l'endométriose. Et le premier des traitements de l'endométriose, c'est la pilule contraceptive qui va bloquer le fonctionnement du cycle et soulager considérablement les douleurs liées à l'endométriose.
Ludmila, vous avez déjà parlé de ce problème de douleur récurrente à votre gynécologue ?
Non.
Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait faire.
Ça fait cela 3 mois, j'ai pas consulté mon gynécologue.
Mais 3 mois, c'est un délai tout à fait court, mais je crois que si vous dites que depuis que vous avez eu vos premières règles et jusqu'à maintenant, et ensuite après votre accouchement, vous avez des règles très douloureuses, je pense que c'est une question qui doit rentrer dans le cadre de votre suivi gynécologique. C'est-à-dire, on n'est plus à quelques mois près, mais...
Il faut en parler,
et le gynécologue va proposer un certain nombre d'examens pour éliminer une endométriose et voir s'il s'agit juste de douleurs de règles en dehors de toute endométriose.
Voilà, Ludmila, on vous souhaite une très très bonne journée à Douala. On va partir tout de suite pour le Congo-Brazzaville, pour Pointe-Noire, où Michel est en ligne. Bonjour Michel.
Bonjour docteur.
Bonjour.
On vous écoute, allez-y.
Voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai une fille de 3 ans. Mais depuis 3 ou 4 mois, j'ai constaté que ma glaire, elle n'est pas du tout filante. Ça ne ressemble pas aux blondes, comme on le dit souvent. Elle est beaucoup plus liquide. Et il m'arrive quelquefois, je suis assise et au moment de me mettre debout, je constate que ma culotte est bien mouillée. Si bien que je ne sais pas à quel moment je vis, et je voudrais savoir est-ce que c'est normal. Ou est-ce que le fait qu'on prend de l'âge, que la glaire finit par changer ? Voilà.
Docteur Marie-Laure Brival, cette question de Michel.
Oui, c'est une question qui est importante, mais pour laquelle il faudra un petit peu plus de précision, c'est-à-dire 31 ans. De toute façon, vous êtes jeune et vos cycles ne devraient présenter aucune perturbation à 31 ans. La deuxième chose, je suppose que vous parlez de la glaire au moment de l'ovulation. Donc ça veut dire qu'il y a 3-4 mois, vous aviez un repérage très clair de votre période ovulatoire. C'est cela ?
Oui, c'est ça, oui.
D'accord. Et donc, vous dites qu'à cette période ovulatoire, vous avez un liquide qui coule comme de l'eau.
Oui, ce n'est pas de la glaire. Donc, même quand je fais ma plantine, ce n'est pas gluant, ce n'est pas, fluente, quoi. Donc, c'est de l'eau, tout simplement.
Oui, et ce constat, parce que c'est... Il s'agit probablement d'une glaire ovulatoire, parce que cette sensation d'eau, mais quand vous dites que la glaire était filante, vous êtes allé chercher au fond du vagin pour récupérer cette glaire, c'est ça ?
Oui, je suis allée chercher, il n'y a rien.
D'accord. Écoutez, c'est difficile parce que il n'y a pas de glaire qui soit de l'eau. La glaire, justement, par définition, est une glaire, c'est quelque chose qui ressemble à du blanc d'œuf. Si vous avez de l'eau, il faut effectivement consulter, voir s'il n'y a pas une autre problématique. On peut avoir des écoulements très liquidiens qui ressemblent à de l'eau, mais dans des problématiques qui peuvent probablement ne vous concerne pas et qu'il faut éliminer, c'est-à-dire des hydrosalpinx, c'est-à-dire de l'eau dans les trompes qui, à certaines périodes, vont s'évacuer vers l'utérus et s'écouler par le vagin. Mais ça me paraît difficile d'avoir une hydrosalpinx sans autre trouble que ces pertes qui ressemblent à de l'eau.
Voilà, Michel. Est-ce que vous en avez parlé à un gynécologue ou à un médecin ?
Non, pas encore.
Mais je reste persuadée qu'il s'agit d'une glaire ovulatoire hein, qui peut prendre ses allures parce qu'elles sont abondantes et qui effectivement peuvent donner l'impression de voir une impression d'avoir uriné sans s'en rendre compte. La glaire ovulatoire peut être très abondante et liquide.
Elle peut changer de consistance sans pour autant qu'il y ait un trouble ou quoi que ce soit.
Tout à fait.
Voilà,
tout à fait.
Voilà Michel pour cette réponse. Bonne journée à Pointe-Noire. On part de l'autre côté du fleuve, RDC, Kinshasa, où l'on retrouve Lisette. Bonjour Lisette.
Bonjour, bonjour à vous.
On vous écoute, allez-y.
Oui, moi ça va faire à peu près 10 ans que j'ai eu à prendre la pilule du lendemain. Et depuis toutes ces années, mes règles sont devenues irrégulières. J'ai eu à consulter plusieurs fois les médecins, mais il n'y a toujours pas de changement. En fait, les deux premiers médecins ne m'ont rien prescrit comme produit. Ils m'ont juste demandé d'observer et que les choses allaient s'arranger avec le temps. Le troisième médecin m'a prescrit des médicaments, mais que je n'ai pas supporté jusqu'au bout. Et il n'y a pas eu non plus de changement. Et ça commence à vraiment me stresser parce qu'avec tout ce désordre, ça fait que je prends du poids, je ne sais pas contrôler mon corps. J'ai des boutons assez bizarres. Et je voulais savoir s'il y avait une solution pour remettre les choses à l'ordre.
Docteur Brival, est-ce qu'il y a un lien possible entre la prise d'une pilule du lendemain et une variation du cycle ?
Non. Je ne pense pas. Je suis certaine. Enfin, la pilule du lendemain n'a aucune influence sur un cycle. Donc, s'il y a 10 ans que vous avez pris cette pilule du lendemain, vous aviez 23 ans. Peut-être avez-vous un souvenir total de ce qu'étaient vos cycles il y a 10 ans, mais toute la description que vous faites de vos cycles irréguliers des phénomènes cutanés que vous décrivez me font très clairement penser à ce qu'on appelle des ovaires polykystiques, c'est-à-dire un dysfonctionnement ovarien qui entraîne des ovulations irrégulières, des cycles irréguliers. Et souvent, ces ovaires, et je pense que le diagnostic, puisque vous avez eu des médicaments que vous n'avez pas, qu'on donne aux diabétiques, c'est ça ?
Metformine,
voilà.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Et c'est tout à fait le genre de thérapeutiques qui sont proposées qui peuvent être proposées dans les cas d'ovaires qui dysfonctionnent, des ovaires polykystiques. Et donc ça fait prendre du poids, ça donne des boutons, ça donne un certain nombre de troubles, voire avoir un peu trop de poils cutanés. Donc on est probablement dans le cadre d'ovaires polykystiques. Et pour remettre les cycles de façon régulière dans leur fonctionnement, il n'y a guère d'autre solution. Tant que vous n'avez pas de désir de grossesse, c'est de bloquer les cycles ovariens avec une pilule contraceptive. Mais en aucun cas, la pilule du lendemain n'a provoqué cette situation, c'est une situation qui est constitutionnelle à certaines femmes.
Lisette, j'ai une question, moi. Quand on vous a donné ces médicaments, le médecin, il vous a pas dit, il vous a pas donné de nom sur ce que vous aviez, il vous a pas donné d'explication sur ce que vous aviez ?
Non, il ne m'a pas donné de nom. J'ai fait des radios, pas échographie.
Voilà, est-ce que vous avez fait une échographie ?
Oui, j'ai fait des échographies, j'en ai fait au moins 5.
Voilà, oui.
Ça remonte au mois d'août. Les médecins m'ont dit que je n'avais pas d'ovaire polykystique, que tout était normal.
C'est très étonnant. J'aurais voulu voir ces échographies, mais bon, sur la description que vous faites, c'est assez caractérisé.
Est-ce qu'en tout cas, la prise d'un contraceptif, c'est quelque chose hormonal, j'entends, c'est quelque chose qui vous embêterait ou c'est quelque chose qui n'est pas dans vos possibilités ou c'est quelque chose qui est possible ?
C'est possible, mais vu que les médecins ne m'ont pas conseillé de prendre ça, moi, je m'étais dit que ok, c'est bon, je laisse tomber.
C'était un gynécologue ou c'était un généraliste ?
La dernière fois, c'était un gynécologue. Mais les fois d'avant, c'était des généralistes. Ils m'ont dit que la pilule contraceptive se prend souvent dans le cas des femmes qui ont des ovaires polykystiques. Et que moi, comme j'en avais pas, il fallait juste que j'observe et que je patiente.
Lisette, bon, oui, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que vous avez une échographie normale et on la renouvelle 5 fois de suite.
5 fois de suite, c'est en 10 ans, en changeant de médecin.
Oui, parce que c'est le premier diagnostic qui vient à chaque médecin. Donc, si vous aviez une échographie strictement normale et que vous en étiez en possession, enfin, voilà, il y a des discordances. C'est sûr que, comme ça, dans une conversation de ce type, il m'est difficile d'aller plus loin. Mais tout ce que vous m'avez décrit au téléphone me fait penser. La prise de poids, les problèmes cutanés avec cette acné qui se constitue, voire quelques poils un petit peu trop drus, cette prise de poids, ces règles irrégulières, on est complètement dans une description clinique d'ovaire polykystique. Maintenant, 5 échographies qui ne mettent pas en évidence là, je voudrais les voir, mais je ne peux pas aller plus loin.
Voilà, Lisette. Hein. En tout cas, bon courage pour la suite et on espère que vous trouverez une solution à ce problème. On vous souhaite une bonne journée à Kinshasa. On reste dans la capitale de la RDC où l'on retrouve Alice. Alice, bonjour.
Bonjour, Récy. Bonjour à tous.
On vous écoute. Le docteur Brival est à votre écoute. Allez-y.
Moi, j'ai remarqué que, depuis un moment donné, environ 6 jours avant mes règles, j'ai fait des crises de migraines. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre les menstrues et les migraines? Mais aussi, est-ce qu'il y a un élément du quotidien qui fait assez que les migraines puissent m'arriver 6 jours avant mes règles? Et enfin, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation? Parce que c'est quand même handicapant, faire des migraines tous les 28 jours.
Cette question d'Alice, hein, docteur Marie-Laure Brival, vous allez pouvoir l'éclairer sur ces maux de tête très très violents, justement, à des périodes régulières comme cela.
Oui, on est dans une situation extrêmement fréquente et on est sur des problématiques de variation hormonale qui changent effectivement en deuxième partie de cycle et quelques jours avant les règles. Et un certain nombre de femmes, effectivement, se plaignent de maux de tête. Quand vous dites migraine, ça ne dure qu'une journée, c'est-à-dire vous avez mal sur la moitié du cerveau, c'est cela?
J'ai mal sur une partie du cerveau. Avant, ça commence à obstruer ma vue. Je ne vois pas très bien. Et puis après, j'ai été violent, maux de tête pendant toute une journée.
Oui, donc vous avez des troubles visuels juste avant. Donc ça ressemble effectivement à des migraines. Et malheureusement, on est dans cette problématique. C'est une maladie qui déstabilise beaucoup hein, le corps professionnel parce qu'on n'a pas encore de thérapeutique ni de compréhension très 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 intime de cette problématique qui handicape beaucoup de femmes. Et malheureusement, donc si vous avez des migraines avec aura, hein, c'est-à-dire ces troubles visuels, c'est une contre-indication à la pilule qu'on donne parfois et qui arrange en restabilisant le cycle sur le plan hormonal, parfois les migraines, mais vous, ça constituerait une contre-indication. Et je ne vois guère d'autres traitements que les traitements propres à la migraine qui sont des antidouleurs au moment de la crise ou des traitements de fond d'une migraine telle que vous la décrivez.
Donc Alice, ce que vous dit le docteur Brival, c'est que ce sont des cas qu'on observe assez régulièrement. Effectivement, ce lien entre ces douleurs aiguës avant la survenue des règles, c'est quelque chose qui est constaté par les médecins.
Oui.
Merci beaucoup.
On souhaite une bonne journée à Kinshasa. On part pour Ouaga, au Burkina, Ouagadougou, où Pascaline est avec nous. Bonjour Pascaline.
Bonjour à tous.
On vous écoute, allez-y.
À mon premier accouchement, j'ai suivi une césarienne et j'aimerais savoir si au second accouchement, ça sera forcément par césarienne.
Pascaline, pourquoi est-ce que vous avez accouché la première fois par césarienne?
Bon, le gynéco dit que l'enfant était gros et puis il avait le cordon qui enroulait son cou.
Donc, il y avait une indication bien précise lors de cet accouchement pour qu'on vous pratique une césarienne. Je vous donne la parole, docteur Brival.
Oui, Pascaline. Voilà, si la raison pour laquelle vous avez eu cette césarienne, elle était pour le bébé avec ce cordon autour du cou, et on sait ce que ça peut donner, c'est une indication tout à fait particulière qui n'a aucune raison de se renouveler lors d'un prochain accouchement. Tous les bébés ne naissent pas avec le cordon autour du cou. Maintenant, il faut être certain que c'était bien la cause pour laquelle vous avez eu cette césarienne, parce qu'il peut y avoir d'autres raisons, des raisons mécaniques. Parfois, certaines femmes ont le bassin beaucoup trop étroit pour laisser passer la tête d'un bébé, et à ce moment-là, les césariennes vont, puisque vous ne changez pas de bassin au cours de votre vie, les césariennes vont être répétées pour cette raison mécanique. Mais si c'est uniquement une raison pour le bébé, il n'y a aucune raison qu'elle soit répétée. Donc la réponse à votre question, si il s'agissait d'un cordon autour du cou du bébé, il n'y a aucune raison qu'on vous refasse une césarienne. Maintenant, ça va dépendre du gynéco qui vous suit, parce que c'est vrai que cette cicatrice sur l'utérus va fragiliser un petit peu l'utérus, ce qui ne contre-indique absolument pas d'accoucher par les voies naturelles, mais certains gynécologues se sentent plus à l'aise, et donc il va falloir pour vous de la force, de la volonté pour demander très exactement pourquoi il vous propose une seconde césarienne. Si la raison que vous m'avez donnée est la bonne, il n'y a pas de raison qu'il vous en fasse une deuxième. Donc il faudra résister.
Voilà, Pascaline, de la persuasion, c'est pas toujours évident. Hein. Quand on va mettre au monde un bébé, on n'est pas vraiment en situation de force, on peut dire. Mais en tout cas, si vous en avez la volonté, parlez-en avec l'équipe qui va vous accoucher. On vous souhaite une très bonne journée à Ouagadougou. On va prendre une dernière auditrice, c'était Nacha. On retourne au Congo, Brazzaville avec vous, et Nacha, bonjour.
Bonjour.
On est à votre écoute, allez-y.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Ma préoccupation est celle de savoir les inconvénients de la pilule du lendemain à long terme.
Vous avez pris plusieurs fois la pilule du lendemain, et Nacha, quelle est votre situation précise?
Ben, j'en ai pris en moyenne peut-être 4 ou 5 fois long. Donc je voudrais savoir s'il y a des inconvénients.
Ce sont des questions qui reviennent souvent, hein, ces questions sur la pilule, la contraception d'urgence. Et d'ailleurs, il y a aussi les questions qui vont avec. Pourquoi avoir recours régulièrement à une contraception d'urgence quand finalement, ça pourrait montrer qu'on a besoin, docteur Brival, d'une contraception au long cours?
Oui, c'est une question très intéressante et qui concerne beaucoup de femmes je ne sais pas si c'est votre cas, mais enfin, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas envie d'avoir une contraception au long cours, c'est-à-dire tous les jours, un comprimé, et qui d'avoir la pose d'un dispositif intra-utérin, c'est-à-dire une contraception au long cours, et ne réserve la contraception d'urgence dans son indication pleine et entière, c'est-à-dire en cas d'accident et de façon tout à fait ponctuelle. Elles vont plutôt choisir de prendre à chaque rapport non protégé une contraception d'urgence. C'est pas l'indication de la contraception d'urgence, ça c'est pour préciser les choses au préalable. Maintenant, puisque vous avez pris à plusieurs reprises cette contraception d'urgence, je dois quand même vous rassurer, cette contraception ne présente aucune problématique, puisqu'elle pourrait être vendue sans ordonnance directement à la pharmacie, comme le Doliprane, enfin le paracétamol ou de l'aspirine. Mais donc là-dessus, je vous rassure, mais je reviens à cette idée que ce n'est pas une contraception au long cours malgré tout. Pourquoi? Simplement parce qu'elle n'a pas une efficacité si importante que ça. Et que cette efficacité, elle est tout à fait aléatoire, et qu'on ne sait pas sur quelle femme ça va marcher ou pas. Globalement, cette efficacité, elle est à peu près de 85%. En matière de contraception, on peut pas prendre le risque d'avoir 15% de risque de grossesse. Sinon, c'est pour cela qu'il faut prendre une contraception au long cours, digne de ce nom, avec des risques de grossesse qui sont largement inférieurs à 1%, autour de 0 et quelques pourcents, que de prendre une contraception avec 15% de risque de poursuivre d'une grossesse. Donc ce n'est pas la bonne méthode, mais vous n'avez pas de risque à prendre de façon répétée cette contraception d'urgence.
Et Nacha, vous ne souhaitez pas prendre de contraception au long cours, personnellement ?
Non, non.
Non, vous préférez comme ça agir en cas de rencontre avec cette contraception du lendemain ?
Oui.
Bien, alors sachez que vous êtes à chaque fois à 15% de risque.
À 15% de risque, sans compter en plus les risques éventuels d'infections sexuellement transmissibles.
Ah ben bien sûr,
quand
sans
on
préservatif.
Pas, voilà, sans préservatif. Voilà, mais en tout cas, Enacha, bonne journée à vous à Brazzaville. Tout à l'heure, quand on a eu cette auditrice qui avait des problèmes de migraine, on a bien compris qu'il y avait des contre-indications ponctuelles pour la prise de tel ou tel contraceptif. Est-ce qu'il y a des examens indispensables, justement, docteur Brival, avant certaines prescriptions, avant certaines ordonnances de contraceptifs?
Si par examen on entend prise de sang, la réponse est très clairement non. On n'a pas besoin de prise de sang systématique pour instaurer une contraception orale. En revanche, examen, c'est-à-dire ce dialogue singulier avec le médecin, c'est déjà un entretien pour voir un peu les choix contraceptifs qui se posent pour chaque femme, mais aussi aller au fond des contre-indications et de révéler ces contre-indications par les antécédents, et ça c'est extrêmement important, familiaux, personnels, l'environnement, s'il y a un tabagisme, s'il y a une obésité, s'il y a un certain nombre de choses, ça suffit, cet entretien poussé dans les règles de l'art devrait pouvoir permettre de poser ou de contre-indiquer la prescription contraceptive.
On va partir tout de suite pour le Sénégal, si vous voulez bien.
Priorité santé sur RFI.
Et nous sommes en ligne avec le docteur Abdoulaye Diop. Bonjour docteur Diop.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest de Dakar. Dans quelles circonstances, docteur Diop, pour quel motif les femmes se rendent-elles le plus souvent en consultation chez un gynéco à Dakar?
Les motifs de consultation les plus courants que nous rencontrons dans notre exercice quotidien, c'est d'abord les troubles du cycle menstruel, ou bien les pertes blanches, ou surtout les douleurs, que ce soit des douleurs menstruelles, que ce soit des douleurs en dehors des règles, que ce soit des douleurs lors des rapports sexuels, etc. Le période de tête, c'est vraiment les troubles du cycle menstruel, à type de règles irrégulières, trop fréquentes ou trop abondantes, ou bien des pertes blanches pathologiques, ou bien des douleurs.
Justement, en cas de douleur, quelle réponse proposez-vous aux patientes, docteur Abdoulaye Diop, quand justement des pathologies sont écartées, quand il s'agit, on va dire, même si ça peut choquer, de douleurs normales, avec d'énormes guillemets, bien sûr?
Oui, quand il y a une douleur, la première chose à faire, c'est de faire un peu l'examen de cette douleur, c'est-à-dire faire un interrogatoire, savoir quel est le type de douleur, l'origine, les facteurs déclenchants, les facteurs calmants, l'ancienneté de la douleur, etc. Donc faire une sémiologie complète de cette douleur pour pouvoir un peu la cerner et faire des examens complémentaires si nécessaire, avec en tête de liste évidemment l'échographie gynécologique obstétricale pour avoir une cause de la douleur. Dans la plupart des cas, évidemment, on va retrouver des causes, mais il arrive de temps en temps qu'on ne retrouve pas de cause particulière, que ce soit des douleurs, entre guillemets, comme vous l'avez dit, normales. Dans ce cas, on explique à la patiente que la douleur est entre guillemets normale et que ce n'est pas obligatoirement quelque chose de pathologique. Mais nous proposons dans tous les cas un médicament qui va permettre de soulager cette douleur-là, même s'il n'y a pas de cause retrouvée.
Tout à l'heure, sur les motifs de consultation, moi, je n'ai pas entendu, docteur Diop, une demande d'infos sur la contraception. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez de votre propre chef ou finalement, beaucoup de femmes vous sollicitent sur ce point?
Oui, nous proposons la contraception. Nous proposons la contraception selon la situation. Déjà, nous la proposons systématiquement dans le postpartum. Après un accouchement, quand on fait la visite de post-natale au 40e jour, nous proposons la contraception. On en a parlé évidemment pendant la grossesse et juste après l'accouchement. Nous proposons aussi la contraception à des jeunes filles qui viennent, qui débutent leur vie sexuelle, qui ne veulent peut-être pas tomber enceinte, ou bien qui sortent d'un accident tel qu'un avortement ou une grossesse arrêtée. Nous leur proposons la contraception. Donc ce motif de contraception, cette propre contraception peut venir de nous-mêmes, nous en fassions la proposition, ou bien ce sont des jeunes filles qui viennent d'elles-mêmes pour pouvoir bénéficier d'une méthode de contraception ou se renseigner. Mais c'est un motif qui est relativement tabou, surtout s'il s'agit d'une patiente qui n'est pas dans les liens du mariage. Avec notre société, comme elle est un peu, n'aime pas trop parler de certains sujets, parfois aborder des sujets de contraception chez une jeune fille qui n'est pas mariée, ça peut poser quelques petits soucis.
Alors, couverture contraceptive encore assez faible au Sénégal, hein, docteur Diop, même si on revient de loin et cette couverture a vraiment augmenté par rapport à il y a seulement une dizaine d'années.
Oui, on est passé de 5 à 6% et on a fait un bond dans la vingtaine, vers 25-26%, je pense. Le gouvernement a quand même mis les moyens, il y a quelques années, pour augmenter cette couverture contraceptive, mais on se rend compte quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Si on regarde tout ce qu'il y a comme avortement clandestin, tout ce qu'il y a comme avortement provoqué, tout ce qu'il y a comme grossesse indésirée et le cortège de complications sociales et médicales que cela fait.
Est-ce que vous avez l'impression, docteur Abdoulaye Diop, que les patients sont plutôt bien informés sur leur anatomie?
Alors là, pas du tout. Ce que l'on voit, ce que l'on constate, c'est que les gens ont des notions très, très, très superficielles et très, 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 parfois même erronées de leur anatomie la plus simple. Que ce soit des organes comme le clitoris, comme les grandes lèvres, les gens ne connaissent pas trop. Les organes génitaux internes, c'est encore pire. Les trompes, les ovaires, l'utérus, ce sont vraiment des organes que les gens ne connaissent pas. Et justement, le fait de ne pas avoir des connaissances précises ou bien même des connaissances basiques sur l'anatomie génitale féminine fait que cela ouvre la porte à certains fantasmes ou à certaines élucubrations par rapport aux pathologies gynécologiques. Et ça fait le lit un peu de tout ce qui est comme charlatanisme et des traitements un peu traditionnels qui, malheureusement, ont leur lot d'effets secondaires et de complications.
Alors justement, charlatanisme, fausses croyances qui peuvent conduire justement les femmes à se mettre en danger, à mettre en danger leur santé avec tout un tas de pratiques complètement néfastes pour la santé des femmes. Quand les femmes posent ces questions, des fois on tombe de haut, mais pourtant c'est une réalité, donc il faut en parler. Par exemple, on a une question Facebook, je vais vous demander d'y réagir, docteur Abdoulaye Diop. C'est Marina qui est au Togo, à Lomé, elle nous demande, première question, hein, tout à fait, à laquelle on peut bien sûr répondre, quelles sont les causes des pertes blanches, comment les traiter? Et là vient sa deuxième partie de question. Est-ce que l'utilisation d'ail est recommandée? On a en effet tout un tas de produits, d'ingrédients culinaires qui sont soi-disant bénéfiques pour la santé gynécologique des femmes. Donc, à toutes ces rumeurs, fausses croyances, il faut absolument apporter un démenti absolu, docteur Diop.
Exactement. Pour répondre d'abord à la question de la patiente, les pertes blanches, il faudrait savoir que c'est physiologique et c'est normal. Une patiente, à certains âges de sa vie personnelle, sa vie génitale, doit avoir des pertes blanches. L'essentiel, c'est que les pertes aient des caractéristiques physiologiques normales. Elles sont blanches, il n'y en a pas beaucoup, ça ne gratte pas, il n'y a pas d'odeur particulière et ce n'est pas associé à des douleurs. Si un seul de ces caractères change, si c'est une perte jaunâtre, verdâtre, s'il y a des démangeaisons, il y a des odeurs de poisson pourri, si c'est associé à des douleurs, dans ce cas, on peut dire que c'est des pertes pathologiques. Et dans ce cas, c'est le médecin qui voudra voir quel est le germe responsable, si c'est des champignons, si c'est des tout un tas de germes, il pourra permettre de donner le traitement adéquat. Maintenant, comme vous l'avez dit, on rencontre dans les réseaux sociaux, on rencontre un peu dans la vie courante, tout un tas de personnes qui vont proposer des traitements les plus extraordinaires possibles, que ce soit l'ail que vous avez cité, que ce soit les feuilles de menthe, que ce soit les feuilles de banane, il y a même un tabac. J'ai vu récemment un de vos collègues sur France 24, je pense, qui a fait un reportage au Sénégal sur l'utilisation du tabac que les femmes mettent à l'intérieur du vagin.
Mais vous dites extraordinaire, moi je dirais cauchemardesque. Hein.
Oui, c'est terrible. Et nous, en consultation, on en voit les conséquences, parce qu'après, on va recevoir derrière, après quelques années ou semaines d'utilisation, ces patients qui vont venir avec des vagins, excusez-moi le terme, mais délabrés, avec des lésions extraordinaires, des lésions ulcéro-nécrosantes, voire même des lésions cancéreuses ou précancéreuses. Et vraiment, nous dénonçons avec la plus grande énergie l'utilisation de ces produits, que ce soit des produits culinaires, que ce soit des produits d'utilisation courante, que ce soit les feuilles de menthe, que ce soit les feuilles de gingembre. C'est extraordinaire les dégâts que ça peut faire.
Encore une fois, c'est pas parce que ces produits sont soi-disant d'origine naturelle qu'il y a une innocuité, ça veut dire qu'il y a aucun effet. Dedans, il y a de l'acide, il y a une putréfaction qui s'installe, c'est vraiment très dangereux.
Mais c'est extrêmement dangereux, c'est même suicidaire que de mettre ce genre de produit à l'intérieur du vagin. Le vagin a sa flore interne, a sa physiologie qu'il faut respecter. Et ces produits qui sont destinés à d'autres endroits du corps, que ce soit des produits alimentaires ou digestifs, mais les mettre à l'intérieur du vagin, mais c'est détruire de manière durable et de manière quasi irréversible la physiologie, l'anatomie du vagin. C'est extrêmement dangereux et on s'en rend compte avec l'augmentation du nombre de cancers gynécologiques au niveau du vagin, au niveau du col de l'utérus, etc. Et qui est simplement dû, en plus évidemment de l'HPV, à l'utilisation de ce genre de produits-là.
En termes de prévention, pour conclure, docteur Diop, sur quel terrain est-ce qu'il faut agir justement pour améliorer cette santé féminine, en particulier au Sénégal?
Je pense que le terrain sur lequel on doit agir, c'est surtout sur le terrain de l'information. parce que c'est avant tout une ignorance qui pousse les gens à avoir certaines attitudes. C'est vrai que les moyens médicaux, l'accès aux médecins, l'accès aux gynécologues n'est pas facile dans nos pays sous-développés où le personnel de santé et le plateau technique n'est pas très relevé. Mais c'est surtout une question d'information de base, d'information sanitaire de base, mais que les gens connaissent leur anatomie, connaissent leur physiologie, et sachent qu'il faut respecter le corps et qu'il y a certaines pratiques qu'il ne faut pas faire. Nous, la première devise qu'on a dans la médecine, c'est d'abord ne pas nuire. C'est vraiment la première devise qu'on met en avant dans la médecine. Donc c'est vraiment l'information, la communication avec les patients, que ce soit au niveau des réseaux sociaux, que ce soit au niveau des médias, pour que les gens connaissent vraiment leur corps, pour pouvoir justement éviter certaines pratiques qui sont vraiment très néfastes.
Merci infiniment Dr Abdoulaye Diop d'avoir répondu à Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes gynécologue, obstétricien, médecin-chef à la clinique Nest au Sénégal à Dakar.
RFI à Dakar, 92 FM.
Docteur Marie-Laure Brival, on arrive à la conclusion de cette émission. Cette question de l'anatomie féminine, c'est quelque chose de central, bien se connaître pour bien se soigner et aussi pour bien s'aimer.
Mais complètement. Mais le témoignage du docteur Diop est tout à fait édifiant. Et ça ne se passe pas uniquement au Sénégal, en France aussi. Très peu de femmes connaissent leur anatomie, ignorent beaucoup de choses. Alors, il y a peut-être pas de feuilles de mangue qu'on trouve si facilement à Paris ou en France, mais on met autre chose dans le vagin.
Notamment
en France.
Avec des toilettes vaginales très agressives.
Et à côté de l'information, je partage complètement le point de vue du docteur Diop, mais je crois aussi qu'il faut rajouter à côté de l'information l'éducation des femmes, et je crois que là ça explique au-delà de plein d'autres aspects, mais l'accès des femmes à l'éducation leur permet de faire des études, de comprendre, leur permet une autonomisation et une prise en charge de leur santé beaucoup plus importante. L'information sur quelqu'un qui n'a pas l'éducation pour comprendre l'information, c'est une information qui va tomber dans le vide.
Est-ce qu'aujourd'hui encore, docteur Marie-Laure Brival, comme c'était le cas il y a 20 ou 30 ans en France, le gynécologue est avant tout, on va dire, un médecin de la prévention, ou aujourd'hui il vient plutôt plus souvent après coup, parce que peut-être les habitudes de consultation systématique ont tendance à se perdre, je parle pour la France?
Oui, souvent on arrive à après coup, mais je crois qu'il y a une politique de santé publique qui doit être mise en place pour justement du dépistage systématique et un accès à la consultation en prévention et non pas en thérapeutique. Et je crois que c'est la devise qui prévenir vaut mieux que guérir. Et on a très peu de moyens de guérison. En revanche, on a beaucoup de moyens de prévention, et je crois qu'une des grandes qualités de la médecine, c'est justement d'éduquer pour permettre aux femmes elles-mêmes de faire leur propre prévention.
Et de prendre en charge leur corps. Merci beaucoup, docteur Brival, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes chef de service de gynécologie obstétrique, directrice médicale à la maternité des Lilas en région parisienne.
Priorité santé sur RFI.
L'événement a débuté il y a 15 jours précisément. Il se poursuit jusqu'au 27 juin. La caravane des aidants. Caravane qui s'arrête dans 5 villes de France. Après Marseille, demain, c'est Strasbourg. En ligne avec nous, Claudie Culac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de la compagnie des aidants, Claudie Culac. Quel message est-ce que vous voulez faire passer à travers cette tournée de la caravane sous le nom de Tous Aidants?
Eh bien, les aidants, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui prenons au quotidien soin de notre proche âgé ou malade ou en situation de handicap. Beaucoup de ces aidants ne connaissent pas les ressources qui existent sur leur territoire, ne savent pas tout ce qui existe pour faciliter la vie de leurs proches fragilisés. Alors nous, on va à leur devant pour leur apporter les informations dont ils ont besoin pour encore mieux accompagner leurs proches. Donc nous étions à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux, à Marseille. Là, je vous appelle, je suis en route, je suis stationnée là sur
un parking sur l'autoroute en direction de Strasbourg avec ma caravane. Et
on entend, hein, parce que la ligne est un petit peu flottante, si vous pouvez bien vous rapprocher de l'émetteur, parce qu'on n'entend pas tout ce que vous nous dites. Donc vous êtes en chemin avec cette caravane et avec ces chiffres très spectaculaires, hein, que vous donnez, Claudie Culac, 11 millions d'aidants. Un aidant, c'est quoi? Parce que finalement, beaucoup d'aidants le sont sans le savoir.
Eh bien, effectivement, 11 millions d'aidants, c'est pas étonnant. Hein. Vous avez 20 millions de personnes atteintes de maladies chroniques en France et 12 millions de personnes en situation de handicap. Donc, un aidant, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? Il va prendre soin, bien sûr, de son proche en termes de soins, hein, de préparation des repas, de veiller à ce que l'environnement dans lequel il vit, son domicile, soit équipé, propre, aménagé. Il va s'occuper des questions juridiques, financières, administratives. Il est au cœur de son parcours de vie et au cœur du parcours de soins. Il va comprendre la pathologie et la bonne observance des médicaments jusqu'à la fin de vie de son proche.
Donc c'est une charge au quotidien. Est-ce que les personnes que vous rencontrez à l'occasion de cette caravane, Claudie Culac, ont un vrai besoin de parler, d'exprimer ce ressenti?
Merci, c'est la première chose. C'est-à-dire que beaucoup des gens que nous rencontrons sur notre caravane ont besoin de se raconter, d'exprimer ce qu'ils vivent au quotidien, d'être entendus, d'être reconnus dans leur rôle et du coup, bien sûr, d'être soutenus et d'être accompagnés pour encore mieux s'occuper de leurs proches.
Et est-ce qu'ils ont connaissance, justement, qu'ils peuvent avoir des droits puisqu'un statut d'aidant existe?
Alors, attention, il y a un statut pour les aidants qui s'occupent d'un proche en situation de handicap, mais pas de statut pour un aidant qui s'occupe d'un proche âgé. Nous, on milite justement pour que ce statut existe parce qu'un statut, ça donne des droits. Par exemple, le droit au congé de proche aidant, ça c'est acquis par la loi SV, cependant ce congé n'est pas rémunéré. Donc les aidants qui concilient pour 58% d'entre eux leur vie professionnelle et leur rôle d'aidant ont des difficultés pour s'arrêter, donc ils se mettent en maladie parce que quel salarié peut se priver de son salaire?
Est-ce qu'il y a des questions qui vous surprennent, Claudie Culac, sur cette caravane des aidants? Est-ce qu'il y a des témoignages justement qui sortent du cadre?
Alors, moi, il y a des choses qui me rendent hystérique. Hein. C'est des mamans d'enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler parce qu'on vient chercher leur enfant, par exemple, je pense à une dame en particulier, à 9h30 et on ramène son enfant à 17h à la maison. Donc, comment voulez-vous qu'elle trouve du travail dans cette amplitude horaire, d'accord? Donc du coup, eh bien, elle se retrouve en précarité parce que ne pouvant pas travailler et aujourd'hui, une famille ne peut pas vivre avec un seul salaire, donc ils sont en surendettement.
Donc une situation sociale qui vient se surajouter déjà à cette situation complexe à la maison. Merci beaucoup. Cette tournée de la caravane des aidants, ça va se terminer les 25 et 27 juin à Paris, à l'hôpital Saint-Louis. Merci beaucoup Claudie Culac pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes présidente de la Compagnie des aidants. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. C'est tout Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu. Aujourd'hui avec nous, Laurence Snow. Demain, journée mondiale de la drépanocytose. Et nous ferons un gros plan sur la douleur associée à cette maladie génétique. On attend vos messages sur notre page Facebook. Et bien sûr, vos appels toujours au 33 84 22 75 75. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.